c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Sur Radio Plus, dans l'air du temps. Alors, l'air, eh bien, c'est le gaz qui est autour de nous, qui forme ce qu'on appelle l'atmosphère. Et il paraît, figurez-vous, que l'atmosphère est plutôt morose actuellement. Alors, est-ce que vous êtes grognon, renfrogné, sombre, d'humeur chagrine? J'espère que non, quand même. L'année vient de commencer, on se dit que la vie est belle. Alors, que disent les astres? Eh bien, nous verrons cela tout à l'heure avec Thérèse et Véronique. Mais auparavant, permettez-moi de vous apporter un petit peu de soleil.
Vas-y, Lisette, on t'écoute.
Arrondis.
Quand mon cœur est un soleil, je soleil, à la bonne heure je soleil. Au rayon des bonnes idées, je me crapahuter au soleil. Au soleil, j'ai conçu cette chanson comme un médicament, comme une envie d'ensoleiller la vie des gens. Une armistice en ce contexte détonnant. Pour la notice, mon petit doigt m'a dit comment. Un brin de simplicité, un soupçon d'humanité, un zeste de légèreté, rien de vraiment compliqué au soleil. Je soleil, soleil, quand mon cœur est un soleil. Je soleil, à la bonne heure je soleil. Au rayon des jours fériés, j'aime me prélasser au soleil. Au soleil, écoute. Toutes les âmes en peine un jour prenaient le temps de dire ce mot qu'on ne dit pas si souvent. Et si les âmes en panne d'amour donnaient le change, on comprendrait qu'aimer ce n'est pas si savant. Adieu inégalité, bye bye inhumanité, bonjour solidarité, bienvenue fraternité du soleil. Du soleil, avec moi les enfants, yeah. Soleil, quand mon cœur est un soleil. Je soleil, à la bonne heure je soleil. Des larmes salées, j'aime te consoler, tu sais, oui. Au rayon des gens heureux, j'aime faire des envieux au soleil. Montre le son, mon ami. Faites tourner la vie. Coulez. Je soleil.
Soleil, je soleil, tu soleil.
soleil, nous soleillons haut. La joie est en toi. Écoute, vas-y.
Barcella sur Radio Plus. Barcella est un artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d'eau vive et d'audace. Barcella compte parmi les virtuoses les plus inventifs de sa génération. Alors aujourd'hui dans l'air du temps et dans notre rubrique Saltant sur la planète, Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, nous invitera à la soirée ciné-débat Menace en mer du Nord. C'est le titre du film qui passera ce soir-là. Ce sera le jeudi 31 janvier en présence du réalisateur Jacques Leuil, de la productrice Ariane Mété et de Monsieur Lionel Denis, directeur de la station marine de Vimereux. Alors ce film a pour intention d'alerter sur un danger majeur qui menace notre environnement maritime, mais aussi à sensibiliser le public sur un monde fragile, celui des écosystèmes de la mer du Nord et par extension de la Baltique. On reviendra ensuite sur Terre avec Bertrand Trinel qui aime la travailler de façon la plus naturelle qui soit, et ce sera notre rubrique Jardiner autrement. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, nous consulterons ensuite les astres pour savoir si cette année s'annonce sous de bons auspices et quelle sera la tendance. Et nous comptons sur Thérèse Colanda et Véronique Parsi pour nous donner des petits conseils. Finir avec la tête dans les étoiles, pourquoi pas?
Sous les étoiles, à des années-lumière, soleil dans le décor, qu'il brille un peu plus haut, qu'il nous rappelle qu'ici et même ailleurs, nos vies et plus encore, il n'est jamais de trop. Même quand le soir, perdu loin des lumières, que tout replonge au noir au fond de ma mémoire, qu'il me rappelle qu'ici et même ailleurs, il n'est jamais trop tard, nul ne vient au hasard. Oh mon étoile, quand reviendra l'hiver, tout seul dans ce décor qui brille de bas en haut. Oh rappelle-moi qu'ici et même ailleurs, la vie est un trésor, le temps nous promet trop. Et même ce soir, perdu sous ces lumières qui brillent dans le miroir où s'écrit cette histoire, je me rappelle qu'ici et même ailleurs, ma vie, mon heure de gloire, le temps trop illusoire. Thank you.
l'instant que sais-je encore pour briller tout là-haut, que tout revienne comme éclat de lumière. Oh, rappelle-moi encore qu'autour de nous là-haut, je m'en irai aussi léger que l'air, me perdre dans le décor et briller tout là-haut comme un rappel pour les prochains hivers. La vie est un trésor, le temps nous promet trop.
Frérot de la Vega sur Radio Plus. Alors, notre enquête dans l'air du temps, on peut en parler car cela peut faire partie des bonnes résolutions que l'on peut prendre en début d'année. Et par exemple, se dire en 2019, bien, je vais essayer de vivre plus avec moins. C'est Regina Wong qui nous donne ce conseil dans son ouvrage « Faites de la place, guide moderne du minimalisme ». Une véritable découverte qui l'a menée à trouver le vrai sens de l'existence. Alors elle explique que le minimalisme permet de réévaluer ses priorités pour se débarrasser des excès et du superflu, c'est-à-dire de toutes les possessions, les croyances, les idées, les habitudes, les relations et les activités qui n'apportent pas de valeur à notre vie, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui est positif. Voilà, on en pense ce que l'on veut, par exemple, par contre, il y a une chose sur laquelle elle a vraiment raison, c'est lorsqu'elle écrit « Il faut prendre de la distance avec ceux qui nous font du mal, qui ne nous rapportent rien et qui pompent notre énergie. Cette énergie qu'il faut réserver à ceux qui nous rendent heureux et qui nous soutiennent. »
La jalousie et l'amnésie font qu'on se vieillit. Les calomnieux et les aigris seront sûrement les premiers dans la vie. C'est pas certain si on le veut, si on se le dit. On ira au bout, on se dira tout. On chassera nos erreurs, on n'aura plus peur, on séchera les larmes ancrées dans nos cœurs. On vivra toujours pour sauver l'amour. On s'en veut d'être malheureux, de ne plus être sûr de pouvoir être deux. On se sépare, on se détruit, c'est vrai. On peut changer toutes nos vies sur des malentendus, des semblants d'envie. Mais quand on se croise dans le miroir, c'est pas très joli. On ira au bout, on se dira tout, on devra provoquer toutes les chances. On devra se battre un peu tous les jours pour sauver l'amour. On chassera nos erreurs, on n'aura plus peur, on séchera les larmes ancrées dans nos cœurs. On vivra toujours pour sauver l'amour. On chassera nos erreurs, on n'aura plus peur, on séchera les larmes ancrées dans nos cœurs.
sur Radio Plus. Alors, le minimalisme, c'est-à-dire mener une existence intentionnelle faite de choix conscients. Tout est question de choix, nous dit souvent Jean-Louis Ouatté, président de l'Extrême Nature, que nous retrouvons tout de suite pour notre rubrique « Sale temps sur la planète ».
Sale temps sur la planète.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour.
Allô ?
Jean-Louis, je vous avais
Bonjour
perdu.
Martine.
D'accord.
Voilà, ça y est, on s'est retrouvés.
Alors, l'extrême nature dont vous êtes le président en partenariat avec Nord Nature Environnement et DPPM, c'est-à-dire Découverte, Pêche et Protection des Milieux, nous invite à la soirée ciné-débat Menaces en mer du Nord le jeudi 31 janvier en présence du réalisateur Jacques Lloyd, de la productrice Ariane Mété et de Monsieur Lionel Denis, directeur de la station marine de Vimereux. Alors c'est à 19h à l'espace culturel Jean de la Fontaine à l'Étrême, avec une entrée gratuite, je le précise. Menace en mer du Nord. De quelle menace parle-t-on, Jean-Louis ?
Alors, il faut savoir que pendant la, enfin, à l'issue des guerres mondiales, hein, de la première et de la seconde guerre mondiale, les Alliés ont coulé des navires qui transportaient des tonnes d'armes chimiques et conventionnelles dans la mer du Nord et la Baltique. Et depuis la fin des hostilités, ces munitions sont immergées dans les mers. Il n'y a pas eu que là d'ailleurs, hein, il y a eu... Dans d'autres mers, il y a eu des stocks d'armes chimiques qui ont été jetés. Et donc, voilà, donc ça c'est une menace parce que un siècle après, il y a des barils qui commencent à rouiller et donc ça commence à diffuser, il y a déjà eu des accidents.
Alors, en fait, Jean-Louis, ce film est un petit peu un lanceur d'alerte. Alerte parce qu'il nous informe d'un danger potentiel, latent et ignoré du grand public avec une problématique grave, donc.
Oui, oui, tout à fait, parce que l'idée n'est pas rassurante. Hein, quand on sait qu'il y a du gaz moutarde, d'autres, de la chloropicrine, du phosgène, du diosgène, etc., et j'en passe, et des substances à base d'arsenic qui sont contenues dans des douilles, dans des tonneaux, hein, mais tôt ou tard, ils seront rongés par la rouille. Donc c'est impossible à savoir quand est-ce que ça va se produire, mais si rien n'est engagé, ça va se produire. Hein. Et plus le temps passe, plus les risques sont importants, car la corrosion fait son effet, hein, mais de manière non uniforme. Hein. Les armes chimiques sont dispersées sur un gigantesque territoire et elles sont confrontées à des conditions très très différentes. Bon, il y a même des endroits où elles n'entrent pas en contact avec l'oxygène et par conséquent ça ne rouille pas. Donc le gros problème c'est l'incertitude. Hein. Mais ce qu'on est sûr, c'est que si on ne fait rien, il y aura une nouvelle pollution, il y aura de la pollution.
Alors pourquoi tout d'un coup ce danger arrive au grand jour ?
Oh, c'est pas un problème nouveau, hein, puisque dans les années 50, peu de temps après le déversement des munitions dans la mer, des premiers cas de brûlure provoqués par du gaz moutarde se sont manifestés chez des baigneurs en Allemagne de l'Est et en Pologne. Hein. En Pologne, il y a eu 24 accidents graves qui sont survenus. Le dernier, c'était en 1997, quand des pêcheurs ont monté une grosse masse de gaz moutarde dans les filets. Et d'ailleurs, en 2011, il y a un projet de recherche internationale qui a été lancé à l'aide de fonds européens. Ce projet, c'est CHEMSEA, ce qui veut dire chemical, hein, pour CHEM, et SI, bien entendu, la mer, donc problème de produits chimiques dans la mer. Et il faut savoir que selon l'OSPAR, OSPAR, c'est une convention de coopération entre les pays de la mer du Nord, des armes chimiques sont en train de rouiller dans 31 endroits de la mer du Nord et de l'océan Atlantique avoisinant. Et on connaît 120 lieux d'immersion d'armes conventionnelles contenant des métaux lourds et des substances dangereuses, dont 64 au large des côtes françaises. Donc ça, c'est parfaitement connu. Hein. Et donc, on connaît des sites dans la baie allemande, non loin des îles de Waden. Il y a plus d'un million de tonnes de munitions qui ont été déversées, dont 90 tonnes d'armes chimiques au large du Danemark et de la Norvège. Les Alliés ont fait couler 45 navires remplis d'armes chimiques. Dans la mer Baltique, il y a deux grands dépotoirs de déchets toxiques. Et puis, plus près de chez nous, dans les eaux belges, notamment au large de... au large de la côte belge, eh bien, y a un site reconnu comme étant très très chargé en c'est le Pardenmarkt, voilà, une décharge de munitions au large de la côte belge. Donc c'est pas un problème nouveau, c'est pas un problème qui arrive comme ça, mais il commence à être urgent d'agir.
Et puis, c'est, bon, c'est quelque chose qui était sans doute connu des autorités, mais pas vraiment du grand public, on va dire.
Non,
c'était plutôt caché.
Voilà.
Alors, finalement, d'après ce que vous dites, Jean-Louis, la gestion des déchets militaires est vraiment difficile à résoudre. Et encore une fois, on a pris la mer pour une poubelle, quoi. Bon, c'est souvent, hein. Bon.
Oui.
Mais justement, dans ce cas de munitions, pourquoi la mer?
Bah, la mer, c'est aussi la poubelle des armées. Comme disait le chanteur Renaud, la mer est dégueulasse, mais pas parce que les poissons vivent dedans, c'est elle est dégueulasse, parce que c'est vraiment la poubelle de l'humanité. Hein.
Mmh.
Comme on en teste, bah, on en a parlé, hein, des plastiques, mais aussi des déchets comme des déchets militaires. Hein. C'est la poubelle de l'histoire. Hein.
Mmh.
Bon, si on prend les deux derniers conflits mondiaux, pour se débarrasser des armes explosives et armes hautement toxiques, bah, les armées des grandes puissances mondiales les ont déversées dans les océans, hein, ni vu ni connu. Hein, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la conférence de Potsdam, en août 45, les Alliés se sont répartis les stocks d'armes chimiques, bah, finalement pour les déverser en mer. Hein, ça a été la solution la plus simple, la plus sûre qu'ils ont trouvée. Et puis ça a continué, hein, jusqu'en 70, il y a eu des immersions d'armes chimiques qui ont eu lieu en mer du Japon, dans l'océan Indien, en mer Baltique, en mer du Nord, etc.
Mmh.
Et même au large des côtes italiennes. Et puis on sait aussi que bah, y a quelques sous-marins nucléaires qui gisent au fond des océans. Hein.
Donc, on l'a bien compris, hein, pollution et danger donc pour la flore et la faune, mais grave danger aussi pour l'humain, car bien évidemment, la pêche qui arrive dans nos assiettes est chargée de toutes ces pollutions.
Bah oui, hein, les pêcheurs, les baigneurs, les poissons, tout l'écosystème est menacé, hein. Donc faut savoir que certains sites d'immersion sont proches de sites touristiques majeurs, de sites de thalassothérapie, de conchiculture, hein, notamment côté de Cancale, Quiberon, ou des frayères, ou des lieux de pêche de poissons et de crustacés. Alors donc les toxicologues craignent que bah, les bactéries, les poissons, les crustacés, les moules, les huîtres, les coraux, etc., puissent eh bien, des années ou des siècles après les conflits, réabsorber, bioaccumuler, bah, tout ça, le mercure, le plomb, j'en passe. Donc, ils peuvent finir, ils peuvent fuir justement de toutes les munitions qui sont corrodées et qui commencent déjà à se disperser. Donc, c'est un problème quand même pour l'écosystème et puis bah, pour nous aussi. Hein.
Mais finalement, Jean-Louis, des déversements dont les responsables n'étaient peut-être pas au courant des dangers potentiels, sans compter qu'à présent, il devient urgent d'agir, donc comme vous dites, et d'ailleurs certains pays commencent à communiquer sur ces déversements, et toujours pas la France, je crois, alors pourquoi ?
Bah, la France, en fait, oppose un peu un secret militaire, et puis faut savoir que il y a aussi une omerta des pêcheurs, la peur de faire fuir les touristes, mais c'est complètement ridicule, puisque le problème, il est là. Il faudrait quand même clairement localiser ces armes et puis essayer de mettre en œuvre des techniques. Alors ces techniques, elles sont chères, donc ça c'est sûr que ça va pas se faire comme ça. D'un coup de baguette magique, c'est des choses qui vont coûter. Hein.
Donc on l'a compris, Jean-Louis, hein, c'est un problème environnemental majeur. Mais alors justement, comment le résoudre? Y a-t-il des solutions? Et certains pays ont-ils déjà mis en œuvre ces solutions, déjà réagi? on va dire.
Je ne sais pas s'ils ont mis en œuvre des solutions, mais ils réagissent, hein. Ils se posent des questions. Il y a des laboratoires d'essais, justement, en Belgique, au Danemark. Il y a des solutions qui sont possibles, hein, à condition que les États qui font jusqu'à présent la sourde oreille, comme la France, acceptent d'y mettre le prix. Mais tout espoir n'est pas perdu. Mais il faut être très prudent, parce que les niveaux de dégradation ne sont pas uniformes. Certaines munitions n'ont pas été altérées, mais d'autres sont en très mauvais état. Tout dépend de la situation géographique, parce qu'on a des courants qui sont différents. Les courants dans la mer du Nord sont beaucoup plus forts que dans la Baltique. Les fonds marins sont aussi différents. La salinité est différente, et donc le plus grand risque serait de provoquer une dégradation d'origine mécanique, c'est-à-dire en sortant ces armes chimiques, on ne sait pas, il peut y avoir beaucoup de casse et puis de dégâts. Donc l'idée, c'est de ne pas récupérer justement ces munitions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut déjà avoir une bonne connaissance des sites, de leur état, donc une analyse bien précise pour justement envisager des solutions pertinentes. Attention aussi, parce que il pourrait y avoir des accidents avec des travaux de construction, parce qu'on sait que il y a des poses de quelquefois de gazoduc, hein, au fond des mers. Il y a des câbles sous-marins, et donc il faut éviter. Donc une bonne connaissance des sites est importante.
En tout cas, pour en savoir plus, Jean-Louis, il faut bien sûr assister à la diffusion de ce film qu'a tourné Jacques L'Œil. Il a eu l'œil, on peut le dire, et le bon.
Oui,
et son film n'est pas un film catastrophe, mais c'est un film qui permet de comprendre la situation. Film documentaire projeté donc le jeudi 31 janvier à l'espace culturel Jean de la Fontaine à Lettrem, et c'est à 19h. Alors il sera suivi d'un débat et chacun pourra poser ses questions au réalisateur Jacques L'Œil, une soirée qui ne manquera donc pas d'intérêt, et chose qui n'est pas négligeable, l'entrée est gratuite, car on peut dire, Jean-Louis, que l'objectif de l'extrême nature est toujours de divulguer et de faire savoir.
Tout à fait, je pense que c'est l'un des objectifs de notre association, et je pense que on veut jouer aussi notre rôle de lanceur d'alerte, hein, auprès des autorités, auprès des élus. C'est un sujet qu'on peut pas enterrer comme ça, balayer d'un revers de main. Donc il faut que ce soit exposé au grand jour, hein, sans faire de catastrophisme. Hein. Mais je pense qu'il est temps d'étudier sérieusement la question.
Tout à fait.
Et puis de trouver des solutions. Je pense que c'est notre rôle d'association de protection de l'environnement de faire ce genre de soirée.
Voilà, on y sera. Merci Jean-Louis. On ne se dit pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. La semaine prochaine, il y aura rediffusion de cette émission. Merci Jean-Louis.
Merci et bonne semaine à tous. Et
à vous aussi.
J'étais la vague bleue, c'est moi qui t'ai porté sur mon dos tout un été. J'étais si clair que tu voyais le fond de ma pensée. J'étais belle, je t'aimais. J'étais la vague bleue, c'est moi qui berçais les voiliers. J'étais la vague qui se reposait sur une plage, dors le soir quand j'étais fatigué de danser. Je suis la vague noire, je n'ai plus rien de bleu, je ne peux plus te voir, tu m'as crevé les yeux. Je suis la vague noire, je ne respire plus, j'irai mourir un soir sur une plage nue. Je salirai le sable comme tu m'as sali. Je noircirai le sable comme tu m'as noirci. Je suis la vague noire et je me sens perdu. Je suis la vague noire et je ne te vois plus. J'étais la vague, vague, vaguement verte, vaguement bleue, couleur des algues, couleur des cieux.
La vague noire, c'était Georges Chelon. Et on quitte l'eau pour cet autre élément qu'est la terre, la bonne terre du jardin de Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement ? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors il y a deux dictons qui disent « Mieux vaut être mordu d'un chien enragé que chauffé au soleil de janvier ». Et puis un autre breton, celui-là, qui dit « Point ne s'emplira le grenier si chaud soleil brille en janvier ». Ce qui veut dire, Bertrand, que nous devons finalement apprécier un temps froid et pluvieux en ce premier mois de l'année. Universelle et consensuelle, la météo est le sujet préféré des Français. Mais ne sert-elle qu'à alimenter la conversation, Bertrand ?
Alors, par ces deux dictons, nos anciens avaient quand même, par méthode empirique, avaient quand même remarqué que la récolte était moins bonne par un hiver chaud. Hein. Donc, les baies d'hiver et beaucoup d'arbres fruitiers ont besoin d'une période de gel pour bien produire. On sait qu'en janvier, c'est un des mois les plus froids. Donc, depuis que les hommes ont cherché à prévoir le temps, hein, qu'il fera donc à court et moyen terme, même à long terme, hein, les climatologues prédisaient le temps à long terme, hein, ils ont toujours cherché à connaître ce temps pour cultiver. Mais la technologie, les satellites, les calculateurs, supercalculateurs également, peuvent désormais nous prédire le temps qu'il fera à court terme. Et les prévisions sont à peu près, pas à 100%, mais à peu près sûres à 24 heures, à 90%. Par contre, au-delà, c'est quand même problématique. Hein. Mm. Et je pense que c'est dommage qu'il n'y ait plus les climatologues comme dans le temps pour prédire le temps à long terme, c'était quand même intéressant. Mm.
Alors, il est vrai que lorsque le temps est maussade, on a moins envie de descendre au jardin. Mais Bertrand, à cette époque de l'année, on peut encore faire des plantations, des caducs notamment. Est-ce vrai qu'on peut planter les rosiers car ils s'habituent au froid et ils fleuriront ainsi dès la première année ?
Alors, bien sûr, c'est le moment, c'est plein moment des plantations, à condition qu'ils ne gèlent pas, bien sûr. Hein. Mais il faut faire les plantations hors gel. Et on peut tout planter. Donc les plantes auront le temps de s'implanter et de démarrer au printemps. Donc tous les arbres et arbustes à feuillage caduc, donc cela vaut également pour les rosiers, gagnent à être plantés le fin d'automne, je dirais fin d'automne jusqu'au printemps, quoi, jusqu'en mars. Hein. Et si possible, maintenant, c'est très bien, parce qu'ils auront le temps de faire des radicelles pendant l'hiver. Hein. Alors, j'ai toujours dit à l'antenne que pour les fruitiers, il faut surtout pas enterrer le point de greffe. Hein. Par contre, en ce qui concerne les rosiers, c'est mieux d'enterrer le point de greffe à 2 ou 3 cm de profondeur, comme ça il va s'affranchir et il en sera que plus vigoureux. Et en plus, en enterrant le point de greffe, ça va protéger le rosier, enfin la greffe du gel. Mmh. Donc c'est intéressant, quoi. Il y en a même qui butent les rosiers pendant l'hiver, le pied de rosier pendant l'hiver et qui le débutent au printemps.
D'accord. Alors Bertrand, puisqu'on parle un petit peu fleurs, grâce à la bruyère d'hiver, finalement un jardin peut ne pas être triste en hiver. C'est une fleur presque idéale qui ne demande pas beaucoup d'entretien, qui résiste au gel et qui se glisse partout avec bonheur. Et on peut encore les planter pour mettre un petit peu de couleur, car elles peuvent être roses, rouges, blanches.
Oui, tout à fait. Il y a déjà les ébores orientales qui fleurissent, hein, mais les bruyères sont des plantes qui apportent de la couleur en période hivernale, hein, alors que ce soit en pleine terre ou alors même dans les jardinières. Hein. Donc vous pouvez bien sûr encore les planter des bruyères, hein, comme son nom l'indique, ce sera dans de la terre de bruyère, parce qu'elle a besoin d'une terre acide. Mmh. Hein, et dans le jardin, elles feront du plus bel effet, par exemple, si vous les plantez au pied d'un arbre à écorce décorative, par exemple un bouleau utilis qui a une écorce très très blanche, les bruyères, les coloris de bruyères au pied, ce sera formidable, ou alors au pied de, enfin à proximité, pas au pied, mais à proximité de plantes à feuillage persistant comme le Soisia ternata sundans, qui est beau feuillage jaune. Alors, bien sûr, vos bruyères, vous pouvez les planter maintenant, mais surtout pensez à les arroser en période estivale, parce qu'elles ont besoin d'eau, elles ont beaucoup besoin d'eau. Hein. Mmh. Donc vous pouvez également les pailler pour conserver l'humidité. Et puis un petit conseil, quand la floraison va se terminer, au printemps, là, et ben, vous coupez toutes les inflorescences et un peu même des tiges pour que votre bruyère reste bien compacte. Hein. Elles sont encore plus belles l'année prochaine. Tout doucement, elles vont grossir doucement, mais en restant bien compactes et bien serrées.
Donc, au printemps, il faut couper
toutes les inflorescences qui sont fanées.
D'accord.
Hein, surtout pas les laisser comme ça, on taille à la cisaille, hein, on taille à la cisaille carrément, et comme ça on obtient de belles boules, bien compactes.
D'accord. Alors, bon, ben, bien sûr, le janvier n'est pas le mois idéal pour mettre le pied au jardin, si ce n'est pour récolter joues de Bruxelles, épinards, mâches ou poireaux. Mais les anciens iront peut-être quand même le 17, quelle que soit la météo, semer la laitue de Saint-Antoine, la Lilloise ou la Gotte de Loos. Tradition conservée, même si on peut les planter les semaines qui suivent. Mais est-ce que vous connaissez ces légumes, Bertrand?
Oui, tout à fait. Donc c'est très bien de conserver les traditions. Hein. Et mon grand-père disait même qu'on pouvait même semer les salades comme ça, hein, sur la neige. Le 17, on pouvait jeter à la volée les graines sur la neige, quand après la fonte, les semis lèveraient inévitablement. Donc nous, on a la chance justement d'avoir de bonnes variétés régionales. Donc vous avez parlé de la Gotte de Loos, hein, qui est typiquement une salade d'hiver. Hein. C'est très bien pour le 17 janvier. La laitue grand-mère que l'on sème en septembre, là on va la semer en septembre, elle passera tout l'hiver sans dommage pour nous donner une belle salade en avril. Alors la laitue Saint-Antoine, c'est plutôt une variété originaire des Ardennes, mais qui résiste également très bien au froid. Et puis enfin, vous avez parlé de la laitue lilloise, donc là on va attendre encore un peu, on va la semer qu'à partir de février jusqu'à mars. Mmh. Voilà, on a encore un petit peu de temps pour la laitue lilloise.
D'accord.
Alors effectivement, on peut faire des semis dès janvier.
Des semis, hein, des semis extérieurs.
Alors, on peut, pour la Gotte de Loos, effectivement, même sur la neige, on peut la semer à l'extérieur. Mm. Sinon, on peut également commencer de semis sous couche. Hein.
D'accord. Alors, puisqu'on parle de manger, on n'oublie pas, bien sûr, de nourrir les oiseaux, mais là, on le dit, on le redit, on re-redit sans arrêt. Alors, c'est vrai qu'on le rappelle très souvent. Bertrand, on voudrait tellement les retrouver au printemps, nombreux, très nombreux, car souvenons-nous qu'ils sont en voie de disparition. Et alors attention à ce qu'il faut être très vigilant, c'est pour le nettoyage régulier des mangeoires.
Alors oui, on l'a dit souvent, les oiseaux sont nos principaux auxiliaires du jardinier. Hein, et c'est vrai qu'au printemps, on aime les revoir, on aime les écouter siffler. C'est formidable cette musique naturelle. Aussi, il faut les nourrir avec des graines, de la graisse. Donc on choisit les graines de tournesol les plus noires possibles parce que ce sont les plus riches. Hein, et puis d'abord, les mésanges adorent ça. Et vous trouvez également dans le commerce des vers de farine. Maintenant, ils font des vers de farine qui sont noyés dans la graisse. Mmh. C'est un bon apport de protéines. Hein.
D'accord.
Alors bien sûr, avant de remplir la mangeoire, à chaque fois que vous remplissez votre mangeoire, il faut les nettoyer parce que de toute façon, les oiseaux, c'est inévitable, on fait des fientes. Et ça peut être vraiment une source de diffusion de maladies. Donc nettoyez les mangeoires avant de les remplir. Hein.
Et puis, l'astuce, hein, c'est de laisser les feuilles mortes, puisque vous parliez des vers de farine. On peut laisser les feuilles mortes autour des arbres, car en se décomposant, elles accueillent des vers de terre dont sont friands certains oiseaux aussi.
Oui, tout à fait. Les oiseaux ont besoin de protéines animales pour être en forme. Donc l'été, ils vont trouver des insectes et des larves. Donc l'hiver, c'est très bien. C'est une très bonne idée là, de mettre des feuilles autour des arbres. Les vers de terre vont venir s'y multiplier puis les décomposer. Mais en même temps, ils vont servir de nourriture aux oiseaux, de bonne nourriture aux oiseaux.
Alors, Bertrand Trinel, les cours de jardinage reprennent pour votre association. Il y en a qui a lieu, il y en a qui ont lieu le 19 janvier à 9h. Cours de jardinage adulte. Et le prochain cours d'apiculture aura lieu le samedi 26 janvier à 9h. Alors, pour s'inscrire, je rappelle que c'est facile. Il faut d'abord devenir adhérent et on trouve le bulletin d'adhésion sur votre blog.
Oui, c'est bien cela. Donc, le 19 janvier, ce sera le prochain cours de jardinage. Donc, il y a déjà eu deux séances qui ont été faites, mais on peut très bien encore intégrer les cours. Hein. Il n'y a pas de problème pour le jardinage. Donc, il suffit effectivement d'être adhérent. Et on trouve notre bulletin d'adhésion sur notre blog en tapant PJH dans un moteur de recherche, par exemple sur Google. Et par contre, pour les cours d'apiculture, c'est plein. Là, on a déjà fait beaucoup plus de séances, donc c'est trop tard pour intégrer le cours d'apiculture maintenant. Mmh. Mais de toute façon, il y a de nouvelles séances qui démarreront à l'automne prochain, hein. Aussi bien en jardinage qu'en apiculture.
Il faut quand même dire que tout ça se passe en salle. Hein.
Oui, tout ça se passe en salle. Alors pas à Vesquières, parce que la mairie n'a plus de salle à mettre à notre disposition. Donc je remercie vivement la municipalité de Robec, j'en profite, hein, qui nous prête une salle pour nos formations.
D'accord, ça c'est très bien, oui.
Ouais, merci beaucoup.
Alors, Bertrand, merci à vous. Et comme à Jean-Louis, je vous dis à dans 15 jours, sachant que cette émission sera rediffusée la semaine prochaine, puisque moi, je n'y serai pas. Merci Bertrand et je vous souhaite une très très bonne semaine.
Très bonne semaine à tous.
Merci à vous.
l'hiver a pris sa besace, que tout s'endort et tout se glace dans mon jardin abandonné. Quand les jours soudain rapetissent, que les fantômes envahissent la solitude des allées. Quand la burle secoue les portes en balayant les feuilles mortes aux quatre coins de la vallée. Un grillon dans ma cheminée. Un grillon se met à chanter. Il n'a pourtant dans son assiette pas la plus petite herbe verte, la plus fragile graminée. À se mettre sous la luette quand le vent souffle la tempête et qu'il est l'heure de dîner. Que peut-il bien manger ou boire? À quoi peut-il rêver ou croire? Quel espoir encore l'habiter? Un grillon dans ma cheminée. Un grillon se met à chanter.
Jean Ferrat, le grillon sur Radio Plus. Alors, nous aurons tous la possibilité de nous transformer et d'aller de l'avant, nous prédisaient Thérèse Parsi et Véronique Hollanda l'année dernière, après avoir examiné la conjoncture astrale. Alors, que nous disent-elles pour 2019? Eh oui, que nous réserve 2019? 2019 est là, une bonne occasion pour faire le bilan de l'année écoulée et partir sur de nouvelles bases, quelquefois. La victoire des Bleus ne nous a pas fait oublier les attentats qui ont endeuillé les familles, les catastrophes naturelles, le désordre des déplacements des populations, les grèves et les manifestations. Alors, que nous réservent les astres en 2019? Thérèse Parsi et Véronique Hollanda, bonjour et très très bonne année à vous d'abord.
Bonjour Martine, et merci. Et puis nous aussi, on vous souhaite une très bonne année ainsi qu'aux auditeurs.
Voilà. Alors justement, je suis heureuse de vous retrouver comme chaque année. Hein. Je rappelle que vous êtes astrologue et spécialisée en développement personnel et en tarot. Alors, quelles sont les planètes qui vont intervenir cette année? Et dites-nous, on reste optimiste ou alors est-ce qu'on sombre dans le pessimisme?
Alors bien sûr Martine, il vaut mieux cultiver l'optimisme, hein, mais 2019 va être la continuité de 2018 avec tous les événements sociaux surtout, et c'est à chacun de nous de garder confiance et espérance. Voilà, alors c'est notamment Jupiter en Sagittaire qui va cette année, nous porter vers la confiance. Ensuite, le signe du Capricorne avec Saturne et Pluton, alors là, c'est remettre de l'ordre. Et Uranus qui va passer le 7 mars prochain en taureau pour 7 ans.
D'accord, oui.
Voilà, donc vous voyez, ça c'est un peu l'ambiance. Ce qui veut dire que c'est à chacun de nous de voir les choses aussi autrement.
D'accord. Alors, justement, Véronique, Thérèse, vous qui êtes spécialisée dans le développement personnel, pouvez-vous nous dire si en 2019, nous pourrons ne plus obéir à des codes et pour plutôt écouter la voix du cœur et puis aussi notre intuition?
Alors pour 2019, nous allons être dans d'une énergie pondue, hein, parce qu'on additionne donc le 2 plus 0 plus 1 plus 9 qui correspond à l'arcane du pendu dans le tarot de Marseille. Et c'est développer notre intuition, les voies de cœur, pour ressentir ce qui se passe au plus profond de moi, sortir de ma prison individuelle, de mes blocages, être à l'écoute de mes émotions pour me garder en santé. Et surtout aussi une reconsidération de nos choix et l'acceptation de s'adapter à une situation conflictuelle pour ne pas sombrer, pour ne pas se sentir noyé, se perdre énergétiquement, spirituellement et intellectuellement. Et c'est notamment également les planètes Neptune et Vénus qui nous aideront à garder une foi et l'amour de soi.
Alors justement, j'allais vous le demander, puisque vous parlez de choix, serons-nous armés en 2019 pour faire les bons choix ?
Alors là, il ne faut pas que la colère l'emporte. Et ça, malheureusement, on sent qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, et chacun, alors là, suivant son histoire, suivant son vécu, suivant ses expériences, doit essayer de s'apaiser tout en, bien sûr, trouver la voie juste. Et Jupiter, là, va nous aider. Vous voyez, le Jupiter en Sagittaire, c'est le garant de la loi.
D'accord.
Et de l'optimisme. Donc, il faut garder en chacun de nous, un idéal, même malgré la difficulté que chacun peut traverser, bien entendu.
D'accord. Alors, bon choix aussi peut-être concernant notre environnement, car ça c'est vraiment l'avenir. Donc là c'est vrai qu'il, comme le dit toujours Jean-Louis Ouatté, il y a des choix à faire.
Et oui, et j'entendais là justement, parce que j'écoutais votre émission, et vous voyez tout ce qui est dans l'océan, hein, vu de la guerre. Et bien vous voyez, en astrologie, la guerre c'est la planète Pluton. Et Pluton, elle est dans le signe de terre du Capricorne. Et donc, c'est surtout un signe qui a une droiture, qui justement remet de l'ordre aussi, de la structure. Donc, prendre conscience peut-être aussi.
D'accord.
Vous voyez, et là, il y a aussi, alors on ne peut pas tout dire en peu de temps, mais il y a aussi l'axe des nœuds, vous voyez, qui va traverser un axe Cancer-Capricorne. Et donc, on va vivre cette année en recherche d'équilibre, d'harmonie, mais bien sûr que chacun doit y mettre du sien, de la conscience.
Alors, justement, pour y mettre toutes les deux, avez-vous des conseils à nous donner ? Je rappelle que certaines personnes vous consultent, car vous organisez des rencontres dans votre librairie Le Monde d'Uranie, hein, c'est le nom de votre librairie, qui est située rue Kennedy à Lille. Alors, donc, des personnes vous consultent pour un mieux-être, puisque vous n'êtes ni dans les prédictions, ni horoscope, mais vous êtes dans les orientations avec les prédispositions de chacun. Alors, quels sont les conseils que vous prodiguez lors de rencontres dans votre librairie Le Monde d'Uranie? Et puis, quels sont les conseils que vous prodiguez aux gens qui viennent vous voir pour un mieux-être ?
Alors, on utilise les deux outils, l'astrologie à tendance psychologique qu'on a appris et le tarot de Marseille, par la voie de l'observation, du ressenti et de l'expression. Et tout part donc des données de la personne, donc sa date de naissance, que ce soit en astrologie ou en tarot. Pour la carte du ciel, on a besoin de l'heure et du lieu. Et c'est la position des planètes le jour de la naissance qui permettra, s'il vous plaît, de développer sa carte intérieure. Et puis par rapport à aujourd'hui, comment les personnes ont vécu ces transits, c'est la position des planètes. Et en fonction de l'échange que l'on a avec eux, on les aide par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils nous disent. Donc le visuel par le tarot et la résonance des planètes avec l'astrologie.
Alors Thérèse Parcy, Véronique Hollanda, dans votre librairie spécialisée Astro-Tarot, de nombreux ouvrages, n'est-ce pas ?
Ah oui, oui. Et alors, bien sûr, il y a les ouvrages qu'on appelle les feedbooks qui se développent énormément.
Mais, allô ?
Oui.
Oui, mettez votre téléphone s'il vous plaît, face.
Oui,
voilà.
Oui. Voilà. Les Feel Good, les coffrets en développement personnel, et alors fin d'année, début d'année, énormément de choses sur l'amour.
ou alors comment s'aimer, comment vivre avec les autres, parce qu'il faut vivre ensemble. Et alors là, on vient de recevoir le dernier de Raphaël Giordano, qui est Cupidon a des ailes en carton. Mmh. Et Véronique Mathieu-Zas, qui dit aussi, n'attendez pas que les orages passent. C'est-à-dire que même dans les difficultés, il faut vivre. Surtout.
Très, voilà. Très bon conseil, ça, finalement, c'est vrai.
Alors, oui.
Le mois de janvier 2019 est un moment pour faire le point et accueillir la nouvelle année, ce qui veut dire que, je suppose, c'est un mois de forte activité pour toutes les deux. Alors, quels sont les prochains rendez-vous proposés?
Alors, on donne des ateliers mensuels qui ont lieu à la nouvelle lune et puis à la pleine lune. Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera le 22 janvier, notre atelier de pleine lune. On donne des entretiens personnalisés toute l'année. Et puis, le 31 janvier, dans notre librairie, on propose un moment d'échange à 17h dans notre librairie qui est ouvert à tous. Mmh. Donc...
Allô? Allô?
Oui.
Voilà. Alors, je vous avais perdu, je ne sais pas.
Ah,
bon, alors,
d'accord.
Est-ce que vous pouvez nous donner des coordonnées quand même, si éventuellement quelqu'un voulait vous joindre?
Oui, bien sûr. Alors, nos coordonnées, donc, on est situé 24 avenue du Président George Fitzgerald Kennedy à Lille, pas loin de l'Ermitage Gantois. Vous pouvez également retrouver toutes nos infos sur notre site en e-commerce et nos activités dans la rubrique rencontres, donc www.librairielemondedurani.com, et vous pouvez également nous découvrir sur notre page Facebook.
Tout à fait. Eh bien, merci à vous, Thérèse Parcier et Véronique Hollanda, et encore une bonne année à vous. Je pense que vous savez quoi faire pour qu'elle soit réussie. Merci, et je vous dis à l'année prochaine.
À l'année prochaine, et Martine. Bonne année à tous.
Bonne et heureuse année à tous.
Merci à vous.
Au revoir.
Travail, amour, résultat en quelques jours, retour définitif de l'être aimé, discrétion assurée, garantie la fin de tous vos problèmes, et dans tous les domaines, garantie la fin de tous vos problèmes, et dans tous les domaines. Réconciliation précise dans ses prédictions. Attire la clientèle pour les commerçants. Provoque et renforce les sentiments. Garantit la fin de tous vos problèmes. Et dans tous les domaines. Garantit la fin de tous vos problèmes. Et dans tous les domaines.
Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. Plus de problèmes, en tout cas. Très bonne semaine à vous et bonne semaine. La semaine prochaine, cette émission vous sera rediffusée puisque je ne pourrai pas être en direct avec vous. Mais le cœur y sera. Si vous n'avez pas pu prendre note des différents rendez-vous, bien vous pourrez en profiter. Et puis, vous pourrez ainsi réentendre les prédictions des astrologues.